OK, on cherchait un médecin là, pour nous parler de ce qui se passe à New York parce que ça ne fait que s'amplifier à New York. On vient tout juste de le trouver, Dr. Julien Cavana. C'est un Franco-Américain, il est neurologue. Monsieur le médecin Cavana, vous êtes médecin au State University of New York. Pouvez-vous me donner le terme exact, s'il vous plaît?
C'est le State University of New York, Downstate Medical Center à Brooklyn.
Voilà, très bien. Dites-nous comment ça va d'abord. Quel est l'état de la situation?
C'est une situation de catastrophe sanitaire qui s'amplifie jour après jour, qui devient de plus en plus difficile parce qu'on a un afflux de malades absolument sans précédent et on manque de place pour les accueillir, on manque de matériel pour les accueillir et on manque de personnel compétent pour les soigner. Donc c'est une situation qui s'aggrave de jour en jour, même d'heure en heure.
Comment vous vivez ça, le personnel de la santé? Parce que ce qu'on lit partout dans le monde, c'est que les premières victimes de ces infections, de ces victimes, donc de ces patients qu'on fait rentrer pour les soigner, c'est le personnel médical lui-même.
C'est extrêmement stressant. Pour l'instant, on tient le coup, on tient le choc. Pour l'instant, notre système est extrêmement sollicité et tendu. Mais pour l'instant, on tient, si vous voulez. On est en train de se réorganiser complètement, de redéployer tous les services pour aller aider sur les urgences, sur les étages de médecine interne qui sont consacrés aux patients COVID-19 et sur les unités de réanimation aussi. Donc voilà, on fait tout ce qu'on peut pour continuer à accueillir ces malades. Nous sommes un service public, donc nous accueillons tout le monde. Mais c'est extrêmement tendu, extrêmement difficile pour les personnels de la santé, oui.
Est-ce que le système pourrait casser à un moment donné?
On espère que non. Si vous voulez, là sur le Downstate Medical Center, on est en train de passer en 100% COVID. Ça veut dire que à partir de probablement demain, on aura réussi à placer tous les patients qui n'ont pas la COVID-19 sur d'autres centres de façon à consacrer nos efforts entièrement aux patients qui ont la COVID-19. Et donc, pour réussir à placer tous ces patients, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Il y a le navire hôpital de la US Navy qui va prendre en charge un certain nombre de patients chirurgicaux. Et puis, il y a 1000 lits qui ouvrent au centre de convention Javits à Manhattan pour aussi prendre en charge des patients non COVID-19. Donc ça va nous soulager un peu, ça va nous décompresser, ça va nous libérer de la place et des bras, si vous voulez, pour continuer à prendre en charge tous ces patients COVID-19. Moi, je crains que on soit obligé de faire plus avec moins. Je ne peux pas vous répondre véritablement sur est-ce que le système va casser. On fait tout pour que ça n'arrive pas.
Est-ce que vous vous préparez à des décisions qui seraient éthiquement très, très, très difficiles, comme on en a vu en Italie, en Espagne, en France, où il faut, face à un nombre, par exemple, de respirateurs limité, il faut choisir à quel patient on le donne et dans certains cas, ça a des conséquences dramatiques?
Oui, on s'y prépare parce qu'on sait que c'est une situation dans laquelle on risque de se retrouver à brève échéance. Et donc, on a décidé d'algorithmes qu'on est encore en train de peaufiner, qui prennent en charge un certain nombre de scores, l'âge du patient, bien entendu, mais pas que. Parce qu'on ne veut pas discriminer les gens nécessairement sur l'âge, mais plutôt sur leur état de santé préexistant et aussi, malheureusement, l'état dans lequel ils vont arriver. Donc ces scores, ils prennent en compte l'âge, les résultats biologiques, les résultats respiratoires. Et voilà, on a, ça c'est des scores qui sont très utilisés, très établis, à visée pronostique jusqu'à ce jour et qui nous permettent de dire, voilà, quel pourcentage de chance de survie pour tel malade en fonction de ces paramètres-là. Mais on va être obligé, si on en arrive là, de les utiliser pour décider qui a le ventilateur, qui est intubé ou qui ne l'est pas.
Aïe, aïe, aïe. C'est quelque chose, hein? Est-ce qu'on est préparé à ça, Dr. Cavana, quand on étudie, quand on fait son cours de médecine? C'est incroyable ce qu'on vit présentement là. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous alliez vivre des moments comme ça?
Non, j'aurais jamais pensé ça. Vous savez, moi je suis neurologue à la base. Et donc là, on se retrouve redéployé sur des unités de médecine et on redéploie énormément de médecins juniors qui sont venus à la médecine pour faire des spécialités en imaginant un système de santé et une médecine extrêmement raffinée, sophistiquée et spécialisée. Donc là, on est tous en train de se reconvertir en accéléré sur des fonctions qui sont plus, qui relèvent davantage de la médecine de guerre, de la médecine de désastre. Et donc, très peu d'entre nous sont préparés à ça. Mais en même temps, je veux quand même rendre hommage à mes équipes et en règle générale à tous les personnels de santé qui sont redéployés et qui s'adaptent de façon absolument remarquable et qui font face.
Vous en avez encore pour combien de semaines à connaître des augmentations à New York? Avez-vous le sentiment que vous vous approchez là du pic à partir duquel vous pourrez stabiliser le nombre de personnes infectées, le nombre d'hospitalisations? Sentez-vous que ça s'en vient ou est-ce que vous en avez encore pour plusieurs semaines, vous croyez?
Écoutez, on en a forcément encore pour plusieurs semaines parce que les personnes qui sont très malades et qui ont besoin d'hospitalisation, on sait qu'ils vont devoir rester entre 2 à 6 semaines à l'hôpital et parfois en réanimation pendant ces 2 à 6 semaines. Donc on sait qu'on en a forcément pour plusieurs semaines. Maintenant, combien de semaines est-ce qu'on va encore avoir avec un tel afflux quotidien de patients? Si vous voulez, il y a 15 jours sur le système hospitalier sur lequel je travaille, qui est en réalité un système avec 3 hôpitaux partenaires, sur l'ensemble des 3 hôpitaux, il y a 15 jours, on avait 2 patients hospitalisés avec la COVID-19. Aujourd'hui, on arrive à 520. Et tous les jours, vous en avez plusieurs dizaines qui sont admis. Et donc, quelques-uns, vous arrivez à les faire sortir. D'autres, malheureusement, décèdent. Donc, ça libère un peu de place. C'est triste de le dire comme ça. Mais ça ne suffit pas à faire de la place pour tous les nouveaux patients qui arrivent tous les jours. Donc, très clairement, on va mettre des semaines, voire peut-être des mois, à continuer à travailler sur cette crise.
Alors, il y en a qui quittent parce qu'ils sont guéris, il y en a qui décèdent, mais l'afflux reste trop important. Il y a comme un solde positif. Alors, vous les mettez où? Est-ce qu'il faut à un moment donné en envoyer dans d'autres établissements? Sinon, le vôtre va déborder, non?
Alors, ceux qui quittent, c'est pas qu'ils sont guéris, c'est qu'ils sont suffisamment stables pour pouvoir continuer de guérir à domicile. Ah. Ça, c'est le premier point.
D'accord.
Le deuxième point, c'est que nous, on a la chance d'être un gros campus. On est d'ailleurs la seule faculté de médecine sur Brooklyn, donc c'est un énorme centre académique. Donc, vous voyez, par exemple, au niveau des lits de réanimation, on a décidé qu'on ferait tout pour accueillir tout le monde jusqu'au dernier ventilateur et on va faire de la place partout. C'est-à-dire que les salles de réveil, les blocs opératoires, la salle de gym de rééducation, même la cafétéria, et puis des laboratoires qui ne sont pas des espaces cliniques, les espaces de consultation externe où les gens viennent pour leur rendez-vous. Tous ces espaces-là, on est en train de les reconvertir en espaces cliniques pour pouvoir coucher les malades et les prendre en charge si besoin. On utilisera chaque mètre carré jusqu'au bout.
Wow! Ah ben, je vous lève mon chapeau, Dr. Cavanaugh. Je vous lève mon chapeau. Je rappelle que vous êtes franco-américain, hein, n'est-ce pas? Vous parlez un français exceptionnel. Bravo. Vous pratiquez la neurologie en principe habituellement donc dans cet hôpital, le State University of New York Medical Center, donc dans Brooklyn. Mais là, vous vous êtes reconverti en médecin de guerre pour prêter main forte à toutes les équipes médicales là, qui aident les patients infectés à la COVID-19. Bravo. Faites attention à vous, Dr. Cavanaugh.
Je vous remercie. Passez une bonne journée.
Et
restez chez vous, lavez-vous les mains et suivez attentivement les consignes des acteurs de santé publique du Québec. Ils savent ce qu'ils font. Et si les choses se passent bien au Québec, vous prenez ça à l'avance, vous avez peut-être de meilleures chances de s'en sortir qu'à New York. Donc, ne lâchez rien.
C'est bien noté, Dr. Cavanaugh. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Ah, c'est quelque chose, hein? Dans un instant, la problématique de l'équipement médical, les masques et tout le reste, chez nous cette fois-ci.